Jean-Bertrand Pontalis, frère du précédent. L'auteur de Pierre et Jean a consacré une trentaine de nouvelles au thème de la bâtardise. Son père, selon l'état civil, était Gustave de Maupassant. Une rumeur longtemps persistante, avant qu'il ne soit prouvé qu'elle était infondée, prétendait qu'il était le fils de Gustave Flaubert, d'un Gustave l'autre. Infondée, la rumeur assurément, mais assurément aussi, Maupassant eût préféré être le fils, au moins spirituel, de ce Gustave-là, qu'il admirait plutôt que de l'autre qu'il n'appréciait guère. Une seule certitude, il était bien le fils de l'or né Le Poitevin. Pater semper incertus, mater certissima. Je ne sais plus bien ce qu'a pu être le roman familial que j'ai inventé autour de ma 10e année et tenu secret avant que l'oubli ne le recouvre. Comme beaucoup d'enfants, j'ai eu pendant un temps la conviction, une conviction fragile, c'est pourquoi il fallait impérativement la taire, que mes parents n'étaient pas mes vrais parents, qu'ils m'avaient adopté. Je ne m'attribuais pas, comme c'est le plus souvent le cas dans l'invention d'un roman familial, une origine prestigieuse, fils d'un roi ou de quelque princesse. Par je ne sais quel tour de passe-passe, je m'étais arrangé pour que mon père adoptif et mon père géniteur soient le même, à la fois conçu et adopté par lui. Je bénéficiais ainsi d'un privilège par rapport à mon frère. Je n'étais pas seulement le fils préféré de mon père, mais son fils unique, et la mère dans cette affaire édipienne un peu particulière. Sa place restait incertaine, son rôle restreint, proche de celui d'une hôtesse qui m'accueillerait dans sa maison. Peut-être au fond de cette étrange construction, y avait-il le pressentiment qu'en renonçant, ou en me l'interdisant, à conquérir la femme qui est aussi une mère, toutes les autres femmes me seraient permises, me seraient accessibles, et cela avec la bénédiction d'un père que je devinais, la chose me fut confirmée plus tard, extrêmement sensible au charme des femmes. En somme, la formule classique se trouvait inversée, mater incerta, pater semper certissimus. C'est de là. 6. Certains se découvrent un frère autre que le leur. Sigmund Freud, de Vienne, et Wilhelm Fliess, de Berlin. Si je regarde leurs photographies, j'ai peine à les distinguer l'un de l'autre. Pendant des années, ils ont échangé de longues lettres. Fliess faisait part à Freud de ses idées, souvent étranges. Freud confiait à Fliess bien de ses secrets. Ils se disputèrent la découverte de la bisexualité, puis se brouillèrent définitivement. On a pu soutenir que Fliess avait tenu lieu d'analyste à Freud, Gustave Flaubert et Louis Bouillet. Cette fois, quand on regarde leurs photographies, ils se ressemblent tant qu'on dirait des jumeaux. D'autres, surtout s'ils n'ont ni frère ni sœur, s'inventent un compagnon imaginaire. Et puis il y a ceux, plus nombreux qu'on ne le croit, qui ont eu un frère mort avant qu'il ne naisse. Comment l'appeler cet inconnu ? Mon grand frère ? Mon petit frère ? Mon demi-frère ? Ou bien le considérer comme un frère ? Le livre d'Antoine Billot, La part de l'absent, gravite autour de la question, montre l'insistance de l'énigme. Elle peut être considérable, cette part de l'absent, surtout dans la mémoire et le cœur de la mère. Et alors, quelle part reste au survivant, ce frère du précédent ? Peu de choses. Rien. Moins que rien. Vie et mort me sont entrelacs, écrit Georges Perros, né après celui qui pesait moins de 3 kilos, il était condamné à mort. Et puis, il y a le frère adultérin, clandestin, le frère dissimulé, par le père ou la mère. Si c'était lui l'enfant du désir, comme on l'envie, comme on le hait, comme on l'aime en secret.
C'était « Frère du précédent » de Jean-Bertrand Pontalis, lu par Denis Podalydès de la Comédie-Française.